Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série Jésus, le seul chemin. Nous arrivons à l'étude numéro 3 et le titre sera L'Église catholique infaillible. Mais tout d'abord, j'aimerais juste vous dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis ni raciste, ni anti quoi que ce soit, pour la simple raison que quand ma chère épouse est morte par erreur et négligence médicale, il y a 26 ans, où j'avais presque pété les plombs. Eh bien, quand j'ai vu comme ils ont emporté le cadavre comme un sac de pommes de terre, et qu'elle a tout dû laisser sur place, et qu'elle n'a rien pu emporter dans la tombe, j'ai compris beaucoup de choses. Oui, croyez-moi. J'ai compris que moi non plus, je pourrais rien emporter. Et il faut beaucoup d'humilité. Je pense maintenant, avec une certaine sagesse, quand on a bientôt 90 ans, qu'il y a des gens d'une certaine religiosité, mais qui ne savent pas autre chose. On leur a pas appris autre chose. Ils n'ont jamais eu connaissance de la stricte vérité biblique. Et Dieu est Dieu. Oh oui, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est ni raciste, ni, comment ce qu'il faudrait dire, totalitaire, comme celui de la Corée du Nord, ou d'autres que je ne veux pas citer parce que c'est aussi dangereux que je ne sais pas quoi. Donc, simplement pour vous dire qu'il y a des gens qui peut-être ne croient pas ce que nous aimerions transmettre, la vérité de l'Évangile, parce qu'ils ne l'ont jamais entendu. Dans ce cas-là, Dieu est Dieu, voyez-vous, et ça ne sera pas comme nous on pense. Envoyer tout le monde en enfer, sans scrupule, sans discernement. Dieu est Dieu, Dieu est saint, Dieu est droit, Dieu est un Dieu d'amour et de compassion, bien qu'il est un Dieu juste, mais, encore une fois, pas comme nous on pense, pas du tout. Donc, si je essaye d'atteindre par ces études des catholiques pour les éclairer, et ce n'est absolument sans aucune arrière-pensée, ni pour en faire des adeptes, puisque je n'ai jamais fait d'adeptes à nulle part de ma vie. Donc, j'essaie simplement de transmettre la stricte vérité de la sainte parole de Dieu. Aussi longtemps que je vivrai, et si le Seigneur me donne encore quelques mois, parce qu'à mon grand âge, une semaine correspond à 10 ans, alors je ferai tout ce que je peux pour essayer de transmettre la stricte vérité pour qu'il y ait des âmes qui puissent se décider, non pas pour une religion, mais pour être sauvées par et en Jésus-Christ. J'ai dit que notre titre aujourd'hui sera « L'Église catholique infaillible ». Premièrement, l'Église catholique, héritière directe de Saint Pierre et des apôtres, c'est ce qu'ils pensent. Oh, nous pensons beaucoup de choses. Il y a une très chère sœur en Christ dans la Suisse romande, où je suis maintenant, puisque je suis plutôt de langue allemande, eh bien, elle était une experte en champignons, et sa famille était importante. Un jour, elle était invitée dans le canton de Fribourg, et elle est allée ramasser des champignons dans les forêts de Fribourg. Et elle a vu une sorte de champignon qui ressemblait comme une sœur jumelle à ceux qu'elle connaissait dans sa région. Elle les a ramassés, elle a fait un très bon repas pour toute la famille. Hélas, hélas. Bien sûr, certains d'entre vous vont dire: donc Dieu n'existe pas, puisqu'il ne les a pas épargnés. Ils sont, toute la famille est morte. C'était une grande histoire terrible dans toute la région, voire même dans toute la Suisse. On peut croire fermement à quelque chose où on pense que vraiment, on ne peut pas se tromper du tout. Et hélas, comme dans ce cas-là, toute la famille est morte. On peut donc croire, d'une façon innocente, à certaines théologies ou philosophies, et, en fin de compte, on pourrait être perdu, ce que je n'espère pas pour ceux qui m'écoutent maintenant. Donc, selon son propre enseignement, l'Église catholique est héritière authentique de l'Église primitive. Les papes étaient les successeurs directs de l'apôtre, plutôt de Saint-Pierre, pour eux, et les évêques, les successeurs des autres saints de la Bible. Le catéchisme de l'Église catholique justifie cette succession apostolique à l'article 869. L'Église est apostolique, elle est bâtie sur des assises durables, et les 12 apôtres de l'agneau, selon Apocalypse chapitre 21 verset 14, elle est donc indestructible, elle est infailliblement tenue dans la vérité. Le Christ la gouverne par Saint Pierre et les autres apôtres présents en leur successeur, et le pape et les collèges des évêques, etc. Donc, deuxièmement, le pape, il est autorisé est l'autorité suprême. Le pape, le père est l'autorité suprême de l'Église catholique. Le pape jouit par instruction divine du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel, pour la charge des âmes. Article 937 du catéchisme de l'Église catholique. Or, notre Seigneur Jésus-Christ est d'un avis bien différent lorsqu'il affirme « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. » Saint Matthieu, chapitre 23, verset 9. Troisièmement, il y a l'infaillibilité du pape. En 1870, le Concile Vatican I a défini le dogme de l'infaillibilité pontificale en ces termes. L'évêque de Rome possède, en tant que successeur de Saint-Pierre, en sa qualité de chef suprême de l'Église, le magistère suprême infaillible. Ce dogme a été ensuite confirmé par le Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église en date du 21 novembre 1964. Saint-Pierre est donc le premier pape. L'apôtre Pierre, Saint-Pierre, or il n'a jamais revendiqué pour lui-même une autorité telle que celle revendiquée par les papes. La lecture de sa première lettre au chapitre 5, versets 1 à 3, est à ce sujet bien utile. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, pesez le troupeau. Pesez, veuillez paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Quatrièmement, l'obéissance demandée aux fidèles de l'Église catholique. L'Église catholique demande à ses fidèles de se soumettre dans l'obéissance de la foi à leur conducteur spirituel, comme indique le catéchisme de l'Église catholique à l'article 891. Lorsque, par son magistère suprême, l'Église propose quelque chose à croire comme étant révélé par Dieu, Je répète, l'Église propose quelque chose à croire comme étant révélé par Dieu et comme enseignement du Christ, il faut adhérer dans l'obéissance de la foi à de telles définitions. Il faut adhérer dans l'obéissance de la foi à de telles définitions. Cette infaillibilité s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine. Quelle part laisse-t-on alors à Jésus et à l'action du Saint-Esprit dans une telle Église? L'Église catholique est-elle, dans ces conditions-là, l'Église de Jésus ou est-elle celle des hommes? Et cinquièmement, l'Église catholique seule responsable de l'interprétation des Écritures saintes. Enfin, l'Église catholique affirme être aussi la seule à pouvoir interpréter de manière juste les Saintes Écritures. La charge d'interpréter automatiquement la parole de Dieu a été confiée au seul magistère de l'Église, au pape et aux évêques, en communion avec lui, catéchisme de l'Église catholique, article 100. Lorsque l'on considère tous les ajouts faits à la sainte parole de Dieu par les responsables de l'Église catholique, on ne peut s'empêcher de penser à cette mise en garde que Jésus a faite aux docteurs de la loi à son époque, quand il a dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, que vous avez enlevé la clé de la science. » Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Saint Luc, chapitre 11, verset 52. Chers amis, voyons maintenant la vraie vie avec Dieu. Le vrai baptême est la vraie confirmation. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Je répète, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Saint Jean, chapitre 3, versets 5 à 8. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenait debout et il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture sainte. Il dit cela de l'esprit. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Selon Saint Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le vrai culte. Voyons cela. Mais, est-il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Saint Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Le véritable appel. Il est dit, « Nul ne peut venir à moi. » Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père, qui m'a envoyé, ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Saint Jean, chapitre 6, versets 44 et 45. Le véritable disciple. Jésus a dit, « Si quelqu'un me sert, dit Jésus, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Saint Jean chapitre 12, verset 26. La véritable tradition est la suivante. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. En conclusion, chers amis, il ne faudrait pas croire que l'Église catholique n'a jamais manifesté la volonté d'une purification et d'un retour à la source pure de l'Évangile. Nombreux furent ces prophètes qui, comme Monseigneur Strossmayer, évêque de Bosnie au Concile Vatican I, ont courageusement élevé leur voix pour demander le retour à l'autorité de la Sainte Bible. Retournons à l'enseignement des apôtres, demanda-t-il, puisque, en dehors de cela, nous n'avons que erreur, ténèbres et fausses traditions. Mettons donc à profit notre raison et notre intelligence pour prendre les apôtres et les prophètes comme nos maîtres infaillibles en ce qui concerne la question des questions. C'est-à-dire, que dois-je faire pour être sauvé? What must I do to be saved? Was muss ich machen, selig zu werden? Eh bien, lorsque cela sera acquis, nous aurons établi le fondement ferme et inébranlable de notre système dogmatique sur le roc durable et incorruptible des saintes écritures divinement inspirées. Arrêtez-vous, vénérables frères, arrêtez-vous sur cette pente odieuse et ridicule. Sauvez l'Église du désastre qui la menace. Demandons aux saintes écritures, aux saintes écritures seules, la règle de foi que nous devons croire et que nous devons professer. Tout cela a été cité par A. Kuhn dans le fameux livre « Une étude complète » de « Je bâtirai mon Église » selon les éditions Emmaüs, page 337. Ne perdons jamais l'espoir de voir des fidèles et des responsables de l'Église catholique revenir de tout leur cœur à la sainte parole de Dieu, mais à ce moment-là se posera la grande question, faut-il obéir à la sainte parole de Dieu ou faut-il obéir à une institution humaine? That's the question. Laissons maintenant au psalmiste de la Sainte Bible le dernier mot. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Près de ceux qui le craignent. Afin que la gloire habite dans notre pays. Psaume, chapitre 85, versets 9 et 10. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Psaume 95, verset 7. Chers amis, la Bible entière contient tout le plan de Dieu pour le salut des hommes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment un tout qui nous révèle Dieu, notre Père, Jésus, notre Sauveur, et l'Esprit Saint, notre Consolateur. Mais Jésus lui-même, c'est lui qui est au centre de toutes les Écritures. C'est ce qu'il affirme dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 24, verset 44, et noté jusqu'au verset 47. C'est là ce que je vous disais, et il s'adressait aux apôtres après la résurrection. lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui est écrit de moi, Jésus, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les saintes écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son saint nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Puisque Jésus dit lui-même que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes contiennent tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit de lui, nous ne devons pas négliger de prendre en compte la Sainte Bible dans sa totalité, Ancien et Nouveau Testament. En lisant quotidiennement et d'un cœur sincère la Sainte Parole de Dieu, nous bénéficierons petit à petit de l'assistance du Saint-Esprit. Je répète, de l'assistance du Saint-Esprit. Et nous commençons à grandir dans notre foi. Jésus dit encore ceci. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre qu'il dorme ou qu'il veille, et cela nuit et jour, la semence va germer et elle va croître, sans que l'homme sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Chers amis, tant que nous vivons pas avec l'Esprit Saint, nous ne pouvons connaître Dieu. Nous ne pouvons connaître Dieu que par notre raison, par notre compréhension humaine limitée, c'est-à-dire d'une manière insuffisante. Notre foi cherche à s'appuyer sur des raisonnements, des déductions, des preuves multiples, sans jamais connaître une satisfaction totale. Il nous devient alors difficile d'accepter les Saintes Écritures dans leur totalité, sans chercher à y mêler des explications humaines telles que l'historicité, la philosophie, la sociologie et bien d'autres sciences humaines. L'homme qui s'appuie sur sa sagesse et sur son intelligence ne connaîtra jamais Dieu. Dieu n'a rien à donner à celui qui croit de tout connaître et de tout savoir. Nous ne pouvons pas soumettre la Sainte Bible à notre propre interprétation, nous devons la recevoir comme une sainte parole de vérité. C'est l'homme qui, dans son orgueil, ajoute ou retire à la parole de Dieu pour en donner sa propre explication. En fait, le seul point de départ possible est une soumission sans restriction à la sainte parole de Dieu comme étant la seule vérité, et cela dans sa totalité. Je répète, une soumission sans restriction à la sainte parole de Dieu comme étant la seule vérité, et cela dans sa totalité. En terminant cette courte étude, il est dit, selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture sainte est inspirée de Dieu. » 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. L'enseignement des apôtres est directement inspiré par l'Esprit Saint. L'apôtre Paul l'explique ainsi dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Voici ce qu'il dit. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint. Je répète, nous en parlons, non par des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Chers amis, si nous acceptons en toute humilité de nous soumettre à la sainte parole de Dieu, nous nous détachons progressivement de tout un fatras de connaissances et de croyances humaines qui nous séparait de notre Créateur. Alors commençons, je te dis à toi qui écoutes maintenant, commence une nouvelle vie dans la liberté de Dieu. Véritable libération de tous les esclavages que la société humaine secrète pour l'homme, transmet pour l'homme. Si vous demeurez dans ma parole, est-il dit, vous êtes vraiment, vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Saint Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. C'est un réel détachement du monde, mais pas le refuge dans un univers utopique. Je répète, pas le refuge ou un refuge dans un univers utopique. Car le chrétien véritable garde une vie bien enracinée dans la société, tout en vivant comme les autres hommes et femmes, il ou elle garde les yeux et le cœur et l'esprit tournés vers Dieu, son Créateur, et vers son Sauveur Jésus-Christ, en se nourrissant uniquement de sa sainte parole. Rappelez-vous, et nous terminons, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la sainte parole vivante et permanente de Dieu, par la sainte parole vivante et permanente de Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Amen. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble et j'aimerais tout d'abord vous dire une strophe d'un assez ancien cantique. Ma langue a fourché parce que je suis de langue allemande. Donc, un ancien cantique. Et cet ancien cantique dit ceci. Jésus-Christ, sois mon espoir. Jésus-Christ, sois ma sagesse. Seigneur, sois mon bonheur. Seigneur, sois ma richesse. Seigneur, sois mon rocher, mon seul appui, mon roi. Seigneur, sois mon savoir, mon seul maître et ma loi. Seigneur, sois mon désir, ma force et ma victoire. Seigneur, sois mon amour, mon trésor et ma gloire. Seigneur, sois mon sentier. Jésus-Christ, règle mes pas. Seigneur, accompagne-moi au jour de mon trépas. Prions maintenant. Ô Dieu, qui t'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui te plaît à te glorifier dans la foi et dans l'obéissance de tes enfants, donne-nous d'être vraiment des enfants d'Abraham. Apprends-nous, Seigneur, cette foi absolue, cette confiance inébranlable qui produira en nous, comme en ton serviteur, une obéissance sans réserve. Donne-nous une conviction si ferme que tu ne nous imposes qu'une discipline paternelle et salutaire, que nous soyons autour de toi comme des enfants tendres, soumis, disposés à remettre entre tes mains, si tu nous les demandes, tous les biens que nous avons reçus de toi. Combien nous nous égarerions souvent loin de toi si, par les épreuves mêmes et par les déchirements dont notre vie est pleine, tu ne voulais nous rapprocher de toi, le consolateur de nos âmes, pour les remplir de ta présence et de ton amour. Tu nous dis, crois seulement, et il vous sera fait selon votre foi. Que ces paroles nous soient un secours puissant à l'heure de l'épreuve, et que nous nous laissions aller entre tes bras sans résistance, comme un enfant dans les bras de sa maman. Ô Dieu, qui a immolé pour nous ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous adorons tes voix, nous embrassons ta main paternelle, même lorsque nous nous humilions, et nous te rendons grâce, surtout de ce que tu es notre Dieu et notre Père, notre Papa, et le Dieu et le Père de tous ceux qui s'approchent de toi dans la foi par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Et maintenant, je vais vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé, 1965, et en ce temps-là, il n'y avait pas encore de CD. Donc, essayez.
Thank you. La vie est longue, mais ses heures sont comptées. Nul ne peut défier la destinée. Moi je ne crains pas la mort, et si je la rencontrais, c'est en paix que je m'endormirais. Si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Non, ne pleure pas, car on se reverra, on se reverra. Le temps s'écoule, chacun suit son chemin, inventant des jours sans lendemain. Moi je ne crains pas la mort, sans peur je l'affronterai, regrettant de laisser ce que j'aimais. Je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Non, ne pleure pas, car on se reverra, on se reverra. Là où j'irai, mon âme sera libre, libre et soulagée. J'aurai enfin trouvé la paix. Là où j'irai, je ne verrai plus ton visage, où des larmes couleraient. Si je partais,
si je partais, sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Non, ne pleure pas, car on se rejoindra.